OK, on commence une nouvelle leçon ce soir. On est rendu au livre de Jonas, donc on approche tranquillement de la fin de l'Ancien Testament. Alors, on entreprend aujourd'hui la première partie. Comme d'habitude, chaque livre comprend deux parties. La première partie est plus qu'une introduction. La deuxième, bien là, on analyse un petit peu plus. Alors, on va regarder, comme d'habitude, dans la première partie, l'arrière-plan. Le but principal du livre, il y a le plan du livre, les thèmes majeurs, les personnages clés, les versets clés, les leçons pour le peuple de Dieu d'alors et d'aujourd'hui, et aussi la place et la présence de Jésus-Christ dans le livre de Jonas. En passant, Jonas, il y a quelques années, on était à Cornwall, et il y avait un invité, il y avait eu une conférence. Il y avait un invité qui s'appelait David Morris, un Américain qui venait de Caroline du Sud. Il a fait 4 sermons sur Jonas que j'oublierai jamais de ma vie. Vraiment de la top qualité. C'était un pasteur américain qui appelle ça des prédicateurs itinérants. Des fois, une église libère un pasteur et pour qu'il puisse se promener à travers les États-Unis, puis prêcher. Il était vraiment un prédicateur exceptionnel, mais ce qui est arrivé, c'est que ces messages-là, lui, quand il se promenait, il prêchait toujours sur Jonas. Alors, il est devenu, là, il maîtrisait son sujet, pas à peu près. Très intéressant, j'ai ça encore dans mon ordinateur. C'est quelqu'un qui comprend l'anglais, là, je dirais, si tu veux étudier Jonas, écoute ça. En tout cas, sur le même. L'arrière-plan du livre de Jonas. Aucun personnage de l'Ancien Testament n'est mieux connu que Jonas. Aucune aventure ne capte davantage l'imagination que celle d'un homme avalé par un grand poisson et rejeté sur la terre ferme au bout de 3 jours. Mais combien, parmi ceux qui connaissent si bien l'histoire, en comprennent l'importance et la signification? Jonas fut un personnage historique investi par Dieu d'une mission particulière dans un contexte historique précis. Il joua un rôle vital dans la réalité vécue du peuple de Dieu. Cela est vrai, mais la valeur de ce livre s'étend encore bien au-delà. Son épreuve, provoquée par sa désobéissance et sa folie, revêt une signification qui dépasse Ninive, la Syrie ou Israël. Dans les desseins de Dieu, l'histoire de Jonas constitue un maillon vital dans le déroulement du plan de salut, du plan divin de salut que l'on trouve dans les Écritures de l'Ancien Testament. Les expériences de Jonas rapportées dans ce livre sont manifestement messianiques. Elles concernent le Fils de Dieu, Jésus le Christ, le Sauveur du monde. Alors, l'auteur, Jonas, fils d'Amathaï, est originaire de Geth-Épher, un village de Zabulon. On a identifié cette localité avec le village actuel d'El-Meshed, à environ 4 km au nord de Nazareth. La prétendue tombe du prophète s'y trouverait. Jonas est donc véritablement galiléen. Cela donne à penser que les pharisiens avaient oublié ce fait ou qu'ils mentaient délibérément quand, dans leur hostilité au Seigneur Jésus, ils dirent à Nicodème, « Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Jean chapitre 7, verset 52. Beaucoup considèrent ce livre comme un mythe, une légende ou une allégorie plutôt que le récit d'un fait historique. Ceux qui croient à l'inspiration de toute l'Écriture trouvent dans les pages de la Bible la confirmation que Jonas est un prophète bien réel. Depuis toujours, les Juifs comme les chrétiens ont considéré ce livre comme le compte-rendu historique d'événements qui se sont vraiment déroulés. Ce n'est qu'assez récemment que des scientifiques sceptiques refusèrent d'accepter la possibilité pour un homme de revenir vivant sur la terre après avoir été avalé par un grand poisson, furent à l'origine d'une réinterprétation du matériau biblique. Ceux qui ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, rejettent systématiquement le miraculeux comme fictif. Comme Jonas relate ses propres erreurs, on peut penser que le livre est le témoignage d'expériences authentiques. Le fait que les Juifs aient reconnu ce livre comme faisant partie de leurs Écritures est un autre argument en faveur de la réalité et de la fiabilité du récit, d'autant plus que celui-ci va à l'encontre de leurs préjugés nationaux en montrant la compassion de Dieu à l'égard d'une autre nation. Avec une franchise remarquable, Jonas révèle ses fautes et son raisonnement erroné. En étant disposé à relater ses graves manquements personnels, l'auteur témoigne d'une évidente humilité. Mais les preuves les plus solides que les incidents relatés dans le livre de Jonas se sont bien produits se trouvent dans le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus-Christ parle de Jonas et de son expérience dans le ventre du grand poisson comme d'un événement authentique. Il évoque aussi la repentance des Ninivites comme une expérience qui a eu lieu dans l'histoire. Ces preuves suffisent à des chrétiens attachés à la Bible. Deuxième chose qu'on va regarder, la date de composition et son cadre historique. Jonas entre dans l'office prophétique à la suite d'Élie et d'Élisée. Certaines autorités juives anciennes font de lui le fils de la veuve de Sarepta, cet enfant qu'Élie ressuscita. Mais aucune déclaration biblique ne vienne étayer cette hypothèse. En revanche, il est possible que Jonas ait été formé dans une des écoles des prophètes ouvertes à Bethel et à Jéricho. Il exerce son ministère prophétique sous Jéroboam II, roi d'Israël, qui a eu le pouvoir de 793 à 753 avant Jésus-Christ, ce qui situe son activité peu avant celle du prophète Amos. Les prophètes se seraient donc succédés dans l'ordre suivant. Joël, Jonas, Amos, Osée, Ésaïe et Michée. La seule prophétie de Jonas à Israël qui nous a été conservée a un rapport avec son nom. Jonas, la colombe, apporte un message de consolation et de réconfort au peuple. L'Éternel a vu la profonde détresse des Israélites et s'est décidé à les délivrer par la main de Jéroboam II. L'auteur du deuxième livre des Rois raconte que Jéroboam II établit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète fils d'Amittai, de Guet-Apher. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble, et l'extrémité à laquelle il se trouvait réduit esclave et homme libre, sans qu'il n'y ait personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les délivra par Jéroboam II, fils de Joas. Israël récupéra les territoires perdus lors de l'invasion syrienne. Ceux qui ont les notes à la page 4, vous avez un tableau dans lequel vous avez les rois d'Israël, le nord, et les rois du sud, avec les différents prophètes qu'il y avait dans ces différentes époques-là. C'est des tableaux importants, si jamais vous voulez étudier le livre solidement, là, de savoir dans quelle époque ça se trouve, qu'est-ce qui se passait politiquement autour d'eux. Donc, le livre de Jonas n'est cependant pas directement lié aux conditions en Israël. Le prophète est mandaté pour prêcher aux païens, et en particulier aux ennemis d'Israël, les Assyriens vivant à Ninive, la capitale de l'Empire. Juste pour vous rappeler pourquoi Jonas ne voulait pas aller là, c'est parce qu'il savait toutes les atrocités que les Assyriens avaient fait au peuple d'Israël. C'était un peuple d'une cruauté, là. Quand on lit un petit peu là-dessus, là, en dehors de... C'est vraiment... Pas pour rien. Pour lui, il ne voyait pour Dieu que la vengeance. Tu sais, c'était un peu comme si quelqu'un était venu nous attaquer au Québec beaucoup fort, puis cruel. Puis qu'après ça, on nous demanderait d'aller les évangéliser. On comprendrait peut-être l'état d'esprit dans lequel Jonas était. C'était les ennemis de Dieu qui étaient d'une cruauté très grande. Alors, ça, c'est des petits faits historiques. C'est important de les rappeler parce que ça nous aide à comprendre pourquoi il ne voulait pas y aller. Même si le Seigneur lui avait dit « Vas-y », lui, il cherchait à se sauver. Alors, le deuxième point qu'on va regarder, le but principal du livre. Le but principal du livre est d'abord d'enseigner que les desseins miséricordieux de Dieu ne visent pas seulement les Juifs, mais aussi les païens, encore ignorants de la loi d'Israël. Outre cette grande leçon, le livre de Jonas illustre la vérité suivante. Ninive se répand à la prédication d'un seul prophète, tandis qu'Israël demeure insensible, bien que de nombreux prophètes lui ont été envoyés. Le livre de Jonas est une magnifique révélation de la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament, qui atteint les pécheurs perdus d'entre les gentils. Spécial, hein? Un prophète réussit à convaincre une nation, une ville, Ninive, une très grande ville, alors qu'eux, ils ont eu une multitude de prophètes qui se sont approchés d'eux pour les appeler à la repentance, puis ils ne se sont pas repentis. Il y a quelque chose à réfléchir ici, là. Alors, à la page 5, vous avez le plan du livre de Jonas. Il y a deux plans. Il y a le plan succinct, qu'on appelle un plan rapide. Autrement dit, je l'ai déjà dit, je le répète, si vous étudiez un livre en particulier, prenez ces plans-là, rentrez-vous-là dans la tête avant de commencer la lecture. Ça aide vraiment beaucoup à la compréhension. Donc, on a le plan succinct, c'est le plan court. Puis, à la page 6, vous avez le plan détaillé. C'est des plans intéressants si jamais vous voulez aller plus en profondeur dans l'étude du livre de Jonas. Alors, on est rendu au quatrième point, les thèmes majeurs du livre de Jonas. Donc, un des thèmes majeurs, c'est celui de l'omniscience et de l'omniprésence de Dieu. Dieu est partout. Il sait absolument tout de nos mouvements et de nos actions et même nos pensées. Personne ne peut se cacher de Dieu. C'est ça qu'il avait essayé de faire, lui, avec son bateau, là. Il avait essayé de prendre le bateau. Il s'en allait dans la direction complètement opposée. Dieu l'envoyait à Ninive. Lui, Dieu m'envoie à l'autre bord. Alors, c'est assez spécial. L'omniscience, la présence de Dieu, il pensait de pouvoir se cacher de Dieu. Quelle folie! T'es un prophète, en plus. En plus, t'es un prophète. Fait que ça nous montre que même comme homme de Dieu, on peut faire des folies dans la vie. La deuxième thème, c'est celui de la compassion et de la miséricorde de Dieu. Dieu va juger la désobéissance de Jonas. Cependant, lorsqu'une personne se repent de façon authentique et sincère, Dieu est rempli de compassion et de miséricorde. Et un autre thème majeur, c'est celui de la souveraineté universelle de Dieu. L'Éternel est le maître absolu de tout ce qui se passe sur la terre. Les circonstances de vie des individus et des nations, ainsi que l'attribution du salut. Sixième point, on va regarder quelques passages, versets clés du livre de Jonas. Jonas 2, versets 2 et 3. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. » Jonas chapitre 4, verset 2. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'était-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. C'est comme un peu comme quelqu'un qui fait des reproches de ce que Dieu est. Je sais que t'es bon, moi je me décide de m'en aller l'autre bord. Les leçons pour le peuple de Dieu, 7e point. L'Éternel est un Dieu d'amour. Il est amour. L'amour de Dieu n'est pas exclusif. Il est répandu sur tous les peuples, toutes les langues, toutes les tribus, toutes les races et toutes les nations. Dieu accorde sa grâce même aux pécheurs les plus endurcis. Et quelqu'un qui étudiait un petit peu l'histoire des Assyriens, c'était vraiment des pécheurs extrêmement violents et extrêmement endurcis. Ninive était la capitale de la nation qui menaçait de détruire Israël. Jonas tenta de se soustraire à l'ordre de Dieu. Il ne voulait pas prêcher la repentance à ses ennemis. Il voulait plutôt que Dieu exerce un jugement sévère sur eux. Le message de Jonas nous défie d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Il nous assure également qu'il est absolument impossible de se cacher de lui. 8e point, c'est vraiment la place et la présence de Jésus-Christ. Donc, on pourrait parler de Jonas comme étant un type de Christ. Le Seigneur Jésus-Christ indique le sens et la signification véritable des expériences de Jonas. Jésus déclare que Jonas fut un signe pour les Ninivites de sa génération. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. » Jonas apparut aux Ninivites comme quelqu'un revenu du séjour des morts. De la même façon, mais à un niveau supérieur, Jésus sera un signe pour sa génération. D'ailleurs, la mort et la résurrection de Dieu seront l'accomplissement de ce dont Jonas ne fut qu'un type. Contrairement à Jonas, le Seigneur sera englouti et vomi, non par un poisson, mais par la mort elle-même. Acte 2, verset 23-24. L'ouragan de la juste colère de Dieu faisait rage. Dès que Jonas fut jeté à la mer, la fureur de la mer s'apaisa. Verset 15 du chapitre 1. Jeté dans les entrailles de la terre, le Sauveur apaisa à tout jamais le courroux de Dieu contre son peuple. Psaume 69, versets 2 et 3. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre, car les eaux m'inondent. Psaume 42, verset 8. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Et Matthieu 27, versets 45 et 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, là-bas sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » À en juger par les rapports que Dieu entretenait avec Jonas, il saute aux yeux que la mort et la résurrection de Jésus-Christ étaient incluses dans son plan longtemps avant qu'ils ne se produisent. En effet, si Jonas désobéit à Dieu et s'attire un jugement mérité, le châtiment infligé au prophète par Dieu est riche d'un profond symbolisme. L'expérience de Jonas servait de figure, une préfiguration, une prophétie en acte de ce qui devait arriver au Fils de Dieu dans sa chair. Le confinement et la libération de Jonas sont des types de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Christ. Matthieu 12, 40 nous dit « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » En évoquant sa mort imminente, le Seigneur s'adressait à des visiteurs grecs. Il leur dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et il ajouta, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Jean chapitre 12, versets 24, 32 et 33. La mort et la résurrection de Christ étaient essentielles pour l'inclusion des païens dans le peuple de Dieu. C'est là le maillon important et riche de sens que l'histoire de Jonas ajoute au déroulement du plan de salut dans l'Ancien Testament. Dans la mort de Christ s'accomplit la promesse faite à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies. Genèse 12, verset 3. La sortie de Jonas du ventre du poisson, qu'on peut assimiler à une tombe, sa prédication aux païens de Ninive et leur repentance subséquente constituent un merveilleux type de la résurrection du Seigneur d'entre les morts, suivi de la puissante prédication des apôtres attestant la réalité de la résurrection avec, pour résultat, la découverte faite par de nombreux païens que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains chapitre 1, verset 16. Dans Matthieu 12, 41, le Seigneur est plus que Jonas, mais on peut cependant établir des comparaisons. L'acceptation par Jonas d'être jeté dans la mer en furie illustre la décision délibérée de celui qui sacrifia sa vie pour la sécurité et le salut des autres. Jésus déclare « Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Jean 10, versets 17 et 18. Il ne faut toutefois pas manquer de souligner un contraste important. Jonas prêcha à contre-cœur pour sauver une ville. Jésus est mort volontairement pour sauver le monde. 1 Jean chapitre 2, verset 2, verset 4, et chapitre 4, verset 14. Et Jonas est aussi un type de l'Église. Jonas, l'Israélite, fut jeté à la mer à cause de la désobéissance à Dieu. De même, les Israélites subiront le jugement de Dieu et seront chassés de leur pays à cause de leur désobéissance. Si la Syrie engloutit Israël, le Seigneur préserve un reste, tout comme il préserve Jonas dans le ventre du grand poisson. Dieu intervient en faveur de Jonas alors que celui-ci n'a plus d'espoir. De même, la parole fait savoir aux Israélites que s'ils retournent à l'Éternel, il aura pitié d'eux et leur accordera son pardon, même s'ils se trouvent à la dernière extrémité. Ésaïe 55, verset 7. De même que Jonas fut délivré pour pouvoir accomplir sa mission à Ninive, ainsi le reste d'Israël reviendra pour s'acquitter de la mission que lui confie le Seigneur de le faire connaître au monde païen tout entier. La mission de Jonas fut un événement d'importance symbolique et typique, destiné non seulement à éclairer les Israélites quant à la position des païens par rapport au royaume de Dieu, mais aussi à illustrer l'adoption future de ceux des païens qui observeront la parole de Dieu dans le salut préparé en Israël pour toutes les nations. Quand le Messie promis vint à Israël, le peuple rejeta son message. D'où le contraste entre l'attitude des Ninivites au temps de Jonas et celui des Israélites contemporains du Seigneur. Matthieu 12, verset 41 nous dit « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ne se repentirent à la repentance de Jonas, à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Deux applications. Première, rendons grâce à Dieu d'avoir étendu son salut aux nations. Il nous rappelle également notre responsabilité permanente de faire connaître l'Évangile à tous. Deuxième application, louons l'Éternel qui n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais qu'il est aussi le Dieu de Ninive et le Dieu du monde entier. Comme le rappelle Paul, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. Romains chapitre 3, verset 29. Que notre grand, glorieux et souverain Seigneur soit adoré et béni éternellement. Amen.